Voilà, bonjour à chacun. C'est une joie d'être avec vous ce matin. Et comme ça a été dit, la dernière fois que je suis venu ici pour prêcher, c'était il y a 2 ans, en 2017. J'étais venu. Et puis, avant ça, bien sûr, déjà à plusieurs reprises avec la famille, et puis y compris seul. C'est une joie d'être avec vous. Et c'est vrai, ça fait maintenant bientôt 4 ans que, après avoir servi pendant un temps dans la paroisse de Carouge, on est parti avec mon épouse, on a implanté une église à Lausanne. Donc ça fait maintenant 3 ans que cette église existe et qu'on vit là-bas et on est réjouis de ce qu'on voit Dieu faire par là-bas. Mais c'est toujours avec beaucoup de joie et puis avec une odeur particulière quand on peut revenir passer du temps avec les amis de l'église libre de Genève. Et puis je suis marié, ça c'est mon travail numéro 1. C'est ma mission numéro 1, c'est l'enjeu numéro 1. Je suis marié à l'incroyable Janet, on a 2 filles ensemble qui ont 4 ans et 2 ans. Puis on aurait voulu venir en famille, mais il y a une rencontre de famille aussi. J'ai mon autre frère qui a aussi des enfants et puis il y a une présentation d'enfants. Donc la famille est allée pour la présentation d'enfants. Pendant que je suis là, je vais essayer de les rejoindre pas trop tardivement pour leur repas de midi. Mais c'est pour ça que je suis venu, mais je ne suis pas venu seul, ça c'est une bonne nouvelle. Pour ceux qui se souviennent, peut-être il y a 2 ans, je disais que je n'aime pas aller seul à l'extérieur. Je trouve que c'est quelque chose d'important quand on regarde la vie de Jésus. Il faisait sa vie entourée. Et puis je me dis, en tant que disciple, on devrait chercher à faire nos vies entourées en fait. Et j'ai avec moi Colbert qui est là. Colbert, je l'ai rencontré de bien avant ça, mais on s'est rapproché dans le contexte des études. Il est en ce moment en train de se former à Startup Ministries, qui est la nouvelle version d'Ibeto, ou l'évolution d'Ibeto, on pourrait dire, l'Institut biblique et théologique d'Orvin. Et puis je suis enseignant là-bas, donc je l'ai rencontré dans ce contexte. Et quand on discutait un petit peu ensemble, il a su que je venais par là. Et puis il a dit qu'il habitait pas loin, qu'il avait du plaisir d'être là. Donc c'est une joie aussi qu'il soit là ce matin. Quand je préparais ce message, on m'a dit que vous étiez dans une série d'histoires inspirantes. Dans une série où vous réfléchissiez à des histoires inspirantes. Et puis j'aime beaucoup cette idée des histoires inspirantes, parce que quand on regarde nos vies et puis qu'est-ce qui forme et qu'est-ce qui nous donne la motivation de continuer dans nos vies, il y a souvent des histoires inspirantes, il y a souvent des rencontres inspirantes. Il y a souvent, vous savez, ce genre de moment qui change tout. Par exemple, pour moi, humblement, je dirais que la rencontre avec ma femme a tout changé. Ça fait maintenant bientôt 10 ans qu'on est mariés et je me souviens, il y avait un avant, un après. Mais je pense qu'ici, tout le monde pourrait dire la rencontre avec Jésus. Sa rencontre avec Jésus a été un moment qui change tout, un moment qui bouleverse tout, un moment qui remet en question et ultimement un moment qui nous inspire. Je réfléchissais et il y a plein de ces histoires inspirantes dans la Bible, n'est-ce pas? Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires inspirantes dans la Bible, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. On trouve ces moments de rencontre, on trouve ces moments qui changent tout, qui changent les destinées, on trouve ces moments qui suscitent des questions, qui ouvrent des destinées. Et puis en même temps, on a aussi ça dans notre quotidien. Alors j'ai pensé à une série de petites histoires inspirantes qui me sont arrivées comme base pour un message que j'ai sur le cœur pour nous ce matin. Et si vous avez vos Bibles, vous pouvez déjà les préparer, tout simplement les préparer. Je vais vous raconter ces histoires, mais comme ça on est prêt après quand on se plongera dans le texte. On va aller dans Actes au chapitre 3, c'est une histoire très connue, une histoire inspirante aussi. Vous verrez un homme qui a une rencontre inspirante, une histoire, comme je l'ai dit, extrêmement connue. Mais avant d'aller là, je vais vous raconter ces histoires qui, moi, m'ont inspiré et qui ont beaucoup façonné ce que je fais aujourd'hui et ma façon de le faire avec Dieu. C'est une histoire d'une rencontre d'un paysan qui vit dans la région de Moudon, qui s'appelle Stéphane Offert, et qui a mis en place un ministère qu'aujourd'hui on connaît sous le nom de Empart. Il a mis en place avec un autre homme, Jesse Chaco. Ils se sont rencontrés les deux et puis il y avait encore un autre groupe d'hommes. Ils ont lancé ça et puis ça fait maintenant environ 15 ans, 20 ans bientôt, mais 15 ans officiellement qu'on en parle. Plus de 15 000 églises qui ont été implantées suite à ces rencontres inspirantes dans la région, en Inde principalement, aussi un petit peu dans les pays limitrophes, mais principalement en Inde. Et aujourd'hui, c'est un ministère qui fait beaucoup, beaucoup de belles choses, beaucoup, beaucoup de choses. L'Inde, c'est un pays où il y a la persécution la plus grande, quand on regarde au niveau proportionnel. Et puis eux visent, et c'est aussi là, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. C'est un contexte complètement différent du nôtre. Et j'ai rencontré Stéphane, et en fait, il y a quelques histoires inspirantes que je vais vous raconter par rapport à ça. Parce que je suis allé 2 fois en Inde, et récemment encore, j'y étais. Et du coup, j'avais à cœur de vous partager ces quelques éléments de récit. Mais ce n'est pas ça le message sera à partir d'acte 3. Empart signifie en fait, c'est une contraction de 2 mots en anglais, qui signifie empowering et partnering. Ça veut dire Empowering, c'est difficile à traduire en français. C'est-à-dire rendre capable, donner la capacité à essayer de tout faire pour rendre capable. C'est ce que les parents font avec les enfants. C'est une bonne image de ce que ça signifie. Et puis, partnering, c'est être en partenariat, faire des partenariats. Et en fait, ce ministère veut rendre capable des personnes indiennes, des personnes locales, à pouvoir transmettre le message de l'évangile auprès de personnes qui ne le connaissent pas, qui n'ont jamais entendu ce message, en faisant des partenariats avec la grande église, l'église avec un grand E, l'église au travers du monde. Et quand j'ai rencontré Stéphane, c'était vraiment ça, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement simple, c'est un père de famille, agriculteur de formation, et très très simple, mais qui vous raconte des histoires qui vous bouleversent, et puis qui vous dit il existe des gens qui ne connaissent pas encore Jésus, si on allait les rencontrer. Et suite à cette rencontre inspirante et un peu challengeante, parce que moi j'ai grandi ici, je suis né dans la région de Lausanne, j'ai été ensuite par la suite dans la région de Genève, et puis c'était difficile pour moi de saisir ce que ça signifie que des gens grandissent sans jamais avoir entendu parler de Jésus-Christ. Je savais que beaucoup de gens avaient rejeté Jésus-Christ. Je savais que beaucoup de gens avaient aucune idée ou comprenaient, avaient un message comme biaisé par rapport à Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Sans doute que vous connaissez des gens comme ça qui pensent plein de choses de Jésus, mais vous vous dites, c'est dommage, j'ai l'impression que tu ne connais pas vraiment Jésus. Mais tu as entendu parler de Jésus. Et puis, ce gars me dit, écoute Yves, il existe ce pays où littéralement des millions de personnes n'ont juste pas entendu parler de Jésus. Pour ces gens-là, le symbole de la croix ne signifie rien. Et alors, il m'a motivé, il m'a challengé aussi. Il m'a parlé de quelque chose, j'aime beaucoup les stratégies, puis j'aime beaucoup quand les choses vont bien, puis avancent bien, puis ça va vite. Je trouve toujours inspirant et challengeant. Et il m'a dit, en moins de 15 ans, en à peu près 15 ans, on a 15 000 églises. Je me dis, c'est intéressant cette histoire. Comment est-ce qu'on fait 15 000 églises dans un endroit où personne connaît Jésus-Christ aussi rapidement? Il m'a expliqué un petit peu leur processus, leur réflexion. Et ça m'a suscité l'envie d'aller en Inde. Et je suis allé en Inde et on a vécu une conférence pastorale. Il y avait environ 200 à 300 pasteurs. Et là, je rencontre un pasteur. Et ça, c'est ma première histoire inspirante. Je rencontre un pasteur qui vient vers moi pendant la conférence, dans les moments de pause, puis qui dit, écoute, j'aimerais bien qu'on prie ensemble. Et là, je pense que vous êtes comme moi, des bons chrétiens. Et quand quelqu'un vous dit, j'aimerais qu'on prie ensemble, vous dites oui et amen. Vous dites peut-être, merci mon frère, merci ma sœur, prions ensemble. Et c'est un peu comme ça que j'ai réagi. Je me suis dit, c'est une joie de pouvoir prier avec toi, volontiers. Dis-moi ton nom, j'ai pas compris son nom. Prénom indien, c'est pas les mêmes habitudes de son et de prénom. Mais je lui ai dit, c'est pas grave, explique-moi un petit peu pourquoi tu veux que je prie pour toi. J'avais à ce moment-là 30 ans. Et il me dit, j'ai 33 ans, j'ai implanté deux églises. Voilà mes disciples qui ont 19 et 20 ans, qui ont tout laissé pour suivre Jésus-Christ. Ils ont leur vie en danger, plus de contact avec leur famille. Et on sent Dieu nous dire d'aller implanter une nouvelle église avec ma femme, dans un quartier qui est complètement fermé et qui est extrêmement sous la réalité de la drogue, en fait. Plus de 90% des personnes dans ce quartier sont des drogués. C'est un quartier qui vit avec presque rien du tout. C'est les plus pauvres des plus pauvres. Puis on sent que Dieu nous dit d'y aller. Bon, déjà là, je me dis, je ne sais pas si je vais vraiment pouvoir prier pour toi. Vous savez, la première réaction de dire oui, amen, subitement, je me demande, est-ce que j'ai la foi pour prier pour ça? Je ne sais pas si ça vous arrive, ce genre de situation. Vous dites, je ne suis pas sûr d'avoir la foi nécessaire pour ta prière, pour ta demande. Puis il me dit, mais prie pour moi, je sens que tu as une passion pour Dieu. Et là, je me dis, mais attends, passion pour Dieu? Et il me dit qu'il a un enfant qui a moins d'un an. Et moi, ma femme était enceinte à ce moment-là. Et j'étais là, j'arrive pas à comprendre comment on puisse imaginer prendre son enfant qui a moins d'un an, aller dans un quartier parmi les plus pauvres des plus pauvres. Et il y a de la pauvreté partout, mais la pauvreté en Inde est une autre chose que la pauvreté en Suisse. Et là, qu'ils me disent, mais on veut aller là-bas alors qu'il y a plus de 90% des gens qui sont drogués. Littéralement, il y a de la drogue partout. On va laisser des églises, on va laisser des jeunes qui nous suivent pour qu'ils reprennent l'église alors qu'il y a de la persécution là où ils sont. Et il me dit que moi, j'ai une passion. Je me suis senti très déstabilisé, pas vraiment capable de prier pour cet homme-là. Je me suis mis à pleurer. Et je lui ai dit, je ne crois pas que je suis capable de prier pour toi. Je ne crois pas que je suis digne de prier pour toi. Mais je le fais si tu es d'accord de prier en retour pour moi. Je vais prier pour toi, même si c'est une réalité qui me dépasse à tous les égards. Mais prie pour moi, que je puisse découvrir un peu de cet amour que tu as pour Dieu. Tu me parles d'une passion, j'aimerais découvrir la passion qui t'habite toi, qui te rend capable de prendre des décisions aussi folles. C'était juste avant qu'on implante notre première église, alors je suis rentré, Et depuis, j'ai ce frère à l'esprit, on a une photo ensemble, j'ai toujours pas son prénom. Il y a des réalités aussi, tout ça, et de sécurité en fait. On ne peut pas échanger nos contacts pour des questions de sécurité. En ce moment, c'est extrêmement violent ce qui se passe là-bas. Donc, ce n'est pas simplement que je ne veux pas, c'est que je ne pouvais pas non plus demander d'écrire son prénom, de prendre son contact, je n'avais pas le droit de faire ça. Je suis revenu et de temps en temps, je regarde cette photo et à chaque fois, je suis ému quand je vois cet homme-là. Ça me rappelle sa passion. C'est une histoire inspirante pour moi. C'est une histoire contemporaine de personnes qui ont osé faire des choses et puis qui m'ont énormément challengé personnellement. C'est venu me chercher dans ce que je pensais comprendre du christianisme, dans ce que je pensais comprendre de suivre Jésus. Parce que vous savez, dans notre contexte, une certaine dose de confort qu'on a tous. Et dans ce confort-là, suivre Jésus, je vous parle pour moi ici, je sais que vous êtes meilleur que moi, mais dans ce contexte-là, pour moi, suivre Jésus, ça ressemble souvent à du bonus dans ma vie. J'ai mon travail, j'ai ma sécurité, j'ai mes assurances qui sont payées, ah oui, j'ai aussi le dimanche, Jésus. Puis là, je rencontrais quelqu'un qui avait complètement renversé la réalité, complètement renversé cet ordre de pensée. Où il était là, j'ai Jésus d'abord, et parce que j'ai Jésus, c'est tout bon. J'ai pas la sécurité, j'ai pas du tout la sécurité pour demain, j'ai la persécution, j'ai la drogue, et je vais aller là où c'est encore plus dur, parce que j'ai Jésus. Et c'est venu vraiment me chercher, et ça continue à me travailler. Alors cette histoire, elle m'a beaucoup inspiré. Et puis, on est parti, on est revenu ici, on a commencé une église. On vit des choses vraiment merveilleuses, on est reconnaissant à Dieu. J'ai rencontré des gens à Lausanne qui ne savaient pas ce que c'était que la Bible. On a pu leur donner une Bible, on a pu prier avec eux, on a pu voir des gens se baptiser, on a pu voir des gens décider de suivre Jésus. On vit vraiment des belles choses. Mais ce n'était pas assez pour moi, parce que je pensais à ce frère là-bas. J'aimerais pouvoir expliquer ça. Alors on a réuni une petite équipe chez nous de 9 personnes et on est reparti en Inde. Et quand on est arrivé en Inde, j'ai eu la joie de retrouver certaines personnes que j'avais vues, mais je ne l'ai pas revu lui. J'en ai vu d'autres. C'est d'autres régions. L'Inde est énorme comme pays. C'est un sous-continent, vraiment. Et j'ai recroisé mon guide. Le même guide qui avait été guide pour le premier voyage était de nouveau guide pour ce voyage-là. Ils ne sont pas beaucoup de guides pour des questions de sécurité. Encore une fois, ils travaillent avec des personnes de confiance. Et quand il m'a vu, il m'a dit quelque chose. Et c'est cette notion du partenariat. Il m'a dit, votre passage continue à m'inspirer aujourd'hui pour ce que je fais. Et il faut comprendre que il y a une cinquantaine d'équipes qui partent chaque année, en moyenne. Une cinquantaine d'équipes qui partent chaque année. Puis il me disait, je me souviens encore de ton passage, je me souviens encore de quand vous étiez là avec ton équipe, je me souviens de ce qu'on avait vécu ensemble. Ça m'inspire encore aujourd'hui de continuer à faire. Et il m'a parlé un peu de sa vie, et lui aussi. Une vie, c'est complètement fou, les priorités. Lui est guide pour ce ministère, c'est-à-dire qu'il reçoit des équipes à longueur d'année, quasiment. Il y a une période, une tranche d'à peu près 5 à 6 mois où ils font les visites, puis ensuite 5 à 6 mois où ils font moins de visites. Mais il me disait, je reçois ses équipes, il part de sa famille, il a 2 enfants, il a une femme, sa femme a des problèmes de santé, elle ne peut pas se tenir debout plus de 30 minutes, elle ne peut pas rester, elle ne peut pas avoir un travail. Et il me dit, je pars, et je fais ça, et il fait des séries de 60 jours, 70 jours, avant de rentrer chez lui. Je dis, mais comment tu peux faire ça? Puis il me dit, à cause de ce que vous faites, quand je vois ce qui se passe ici, j'ai envie de participer à ça. Et puis on a une communauté autour qui aide ma femme, et ça va bien. Et de nouveau, je suis rentré très inspiré de ça, en me disant, quelles sont moi les choses qui me retiennent de suivre pleinement Jésus. Et je pensais à cette notion de partenariat, parce que vous savez, cette histoire-là, elle est folle, mais ce qu'on fait à Lausanne, j'arrête pas de le dire à notre église, et ce que je fais en Suisse, j'arrête pas de le dire partout où je peux aller, c'est motivé par un partenariat avec des frères dont je connais même pas le nom. C'est motivé par des rencontres qui, aujourd'hui, me poussent encore. Parce qu'il y a des matins, encore une fois, vous êtes meilleur que moi, mais moi, j'ai des matins où j'ai pas le goût de me réveiller. J'ai pas le goût de sortir du lit, j'ai pas le goût de partir dans la journée. Vous savez, ces matins où vous regardez votre agenda et vous dites, je me réjouis que la journée se finisse, alors qu'elle n'a pas encore commencé. Puis des fois, je suis dans ces moments-là et je me rappelle de ces gars-là. Et je sais, ça paraît pas très spirituel, n'est-ce pas? Je devrais m'appuyer sur un psaume ou sur un... Mais des fois, ces gars-là sont plus tangibles pour moi. Parce que je les ai rencontrés, parce qu'on a pleuré ensemble, parce qu'on s'est serré dans les bras. Il y a quelque chose d'extrêmement tangible. Et je me rappelle de ces gars et je me dis, je veux continuer. Et maintenant, on va aller ensemble dans Acte 3, parce que je crois qu'il y a une notion de partenariat ici extrêmement importante. Et on va lire les 10 premiers versets de ce chapitre. Et je vais vous proposer de voir ce que moi j'appelle, c'est le miracle avant le miracle. Alors on va lire, puis je vais vous expliquer pourquoi je parle de miracle avant le miracle. On lit ensemble dans Acte 3, je lis dans la version Parole de vie, que je trouve extrêmement fraîche, mais... Vous avez sans doute des seconds 21 qui sont très bien aussi. Un jour, Pierre et Jean vont au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y a un homme infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apporte et on le dépose là. Il demande de l'argent à ceux qui entrent dans le temple. L'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer. Il leur demande de l'argent. Pierre et Jean tournent les yeux vers lui et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme les regarde avec attention. Il pense « Ils vont me donner quelque chose ». Pierre lui dit alors « Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ». Pierre prend l'homme par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme deviennent solides. Il se lève d'un bond et se met à marcher. Il entre avec Pierre et Jean dans le temple. Il marche, il saute, il chante la louange de Dieu. Toute la foule le voit marcher et chanter la louange de Dieu. Les gens le reconnaissent. C'est lui qui était assis à la belle porte du temple pour mendier. Alors ils sont effrayés et très étonnés à cause de ce qui est arrivé à l'infirme. C'est une histoire connue. Si vous êtes depuis un petit moment à l'église, c'est une histoire vraiment connue. Vous en avez déjà entendu parler, sans doute déjà entendu des prédications là autour. Souvent, on appelle cette histoire le premier miracle de l'église primitive. C'est un des récits comme ça d'une guérison miraculeuse qu'on voit tout juste après la naissance de l'église. Mais parce que je pense que c'est toujours bon de se rappeler ces choses-là, je vais vous proposer un petit peu de contexte. Parce que je crois que ce n'est pas tout à fait le premier miracle de l'église primitive. On pourrait argumenter longuement là-dessus, ce n'est pas le but ce matin. Mais je crois surtout que derrière ce merveilleux miracle se cache un autre miracle qu'on doit redécouvrir. Un miracle du partenariat. Et un miracle dans lequel on doit, après lequel on doit aspirer tout autant que de voir des boiteux être guéris. Alors un peu de contexte. Jésus est parti au début de Acte 1. On voit la montée, l'ascension de Jésus. C'est comme un récit de l'ascension de Jésus où il rappelle ce qu'il a déjà dit à ses disciples. Il s'en va et il leur dit « Mais attendez, vous allez recevoir la puissance que je vous ai promis, celle dont, de laquelle je vous ai parlé, et puis vous serez capables de faire des grandes choses. Attendez que j'envoie cette puissance. » Acte 2, on voit l'arrivée de cette puissance, la Pentecôte. On voit la puissance qui arrive alors qu'ils étaient réunis, et puis on voit ce premier, et là c'est à mon avis un autre miracle que des fois on oublie, une prédication, 3000 personnes qui donnent leur vie à Jésus. À l'époque, sans la technique qu'on a aujourd'hui, je crois que c'est un miracle. Essayez de vous asseoir, il y avait des manifestations hier à Lausanne. Une personne qui parle pour 3000, je pense que ça relève du miracle. 3000 personnes qui donnent leur vie à Jésus, ils commencent à cheminer ensemble. Et puis là, on a ce récit fascinant de Pierre et Jean. Et je vous ai parlé d'histoires inspirantes autour de partenariats. Et je pense que ce gars-là, cet infirme, doit se rappeler. Je pense que pour cet infirme, c'est une des histoires inspirantes de sa vie. On n'a pas beaucoup d'informations sur la suite de sa vie. On le retrouve un tout petit peu par la suite, mais on ne sait pas exactement ce qu'il va faire. Mais je pense que sa vie a changé à partir de ce jour-là. Puis je pense que souvent, quand il a rencontré des gens, après ce jour-là, il devait se rappeler, un jour j'ai rencontré deux gars. Ça a changé ma vie. Donc je crois qu'on est au milieu d'une histoire inspirante ici pour l'infirme. Et puis on a Pierre et Jean qui marchent ensemble. La première des choses que j'aimerais souligner avec vous, c'est intéressant, mais c'est comme si Pierre et Jean ne sont pas dissociables dans l'histoire. Si vous regardez, on nous dit tout le temps Pierre et Jean. Pierre et Jean, Pierre et Jean. Si vous faites une étude en français, on dirait le sujet, c'est Pierre et Jean. L'acteur principal, on ne saurait pas qui est l'acteur principal. C'est les deux, l'acteur principal. Il y a quelque chose ici, je crois, à redécouvrir du fait de ne pas marcher seul. Il y a quelque chose ici, je crois, comme un secret. Comme quelque chose que Dieu veut qu'on comprenne alors qu'on lit la parole. Et j'ai envie de vous dire, qu'importe pour l'instant si vous êtes Pierre ou si vous êtes Jean, mais qui est ton partenaire? Avec qui tu marches au quotidien? Ou quelle est la personne avec qui tu t'en vas pour ce temple, pour la prière? Et il semble, comme c'est raconté cette histoire, il semble que sans doute ils ne marchaient pas seulement pour aller prier ensemble. Quand on lit cette histoire, on peut supposer, vu comme on nous parle de Pierre et Jean, que ce n'était pas simplement le dimanche matin pour aller à l'église. Sans doute qu'ils devaient passer du temps ensemble à d'autres moments. Alors, je vous parle d'un miracle avant le miracle, et j'aimerais que vous compreniez qui est Pierre et qui est Jean. Parce que nous, on est trop christianisés. Pour nous, c'est normal. C'est deux des disciples de Jésus. C'est deux des apôtres, n'est-ce pas? Mais si on s'intéresse un peu aux disciples de Jésus, les amis, on découvre que ce n'est pas du tout normal que Pierre et Jean marchent ensemble. Jean, il s'auto-proclame, il s'auto-nomme le disciple que Jésus aimait. Si vous regardez Jean, voilà quelques éléments qu'on sait. Tout d'abord, très sentimental comme personne. C'est lui qui va s'appuyer sur l'épaule de Jésus pendant les repas. C'est lui qui voulait toujours être là. Ce qu'on sait aussi, c'est que c'est pas le plus téméraire de tous. Il ne parle pas beaucoup, Jean. On n'entend pas dire grand-chose jusque-là. Dans sa vie avec Jésus, en fait, essayez de vous souvenir. Pas grand-chose. On sait par contre que c'est quelqu'un d'extrêmement loyal. Parce que si vous étudiez encore une fois la vie de Jésus, au moment de la crucifixion, Jean, c'est le seul qui est devant la croix. Tous les autres sont partis. Maintenant, pensez à Pierre. Pierre, on sait beaucoup plus de choses de la vie de Pierre. Pierre, c'est, vous m'excuserez ici l'expression, mais c'est la grande bouche. C'est celui qui a toujours quelque chose à dire. Il semble que Pierre ne manquait pas une occasion de dire ce qu'il pensait. D'ailleurs, souvent, il parlait sans doute un peu trop vite. C'est celui qui a été repris plusieurs fois par Jésus. Bien sûr, il y a des grands moments, n'est-ce pas ? Tu es Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Des grands moments. Mais c'est aussi à lui qu'on dit « Rire de moi, Satan ». Donc Pierre, c'était le fonceur. C'était celui qui allait toujours. C'est celui qui ouvrait les portes quand les portes étaient fermées. C'est celui qui forçait le chemin. Donc, je ne sais pas si vous voyez, ce n'est pas des caractères qu'on a l'habitude de mettre ensemble. Vous avez à côté de Pierre cette personne tendre, cette personne qui prend le temps, cette personne loyale qui sans doute hésitait souvent, cette personne qui aimait les enseignements de Jésus mais qui disait rien des enseignements de Jésus, cette personne qui parlait pas beaucoup. Et vous avez à côté le fonceur, celui qui n'a jamais le temps, celui qui sait pas manier l'épée mais essaye quand même de couper la tête. Vous avez ce personnage complètement surprenant de Pierre et Jean, et il faut s'arrêter un peu. Moi j'aime bien dire c'est le romantique et le gangster ensemble. Jean, c'est le romantique, Pierre, c'est le gangster. Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Vous comprenez, nous, on lit ça avec nos lunettes chrétiennes, avec notre héritage chrétien. C'est merveilleux, quelle bénédiction d'avoir cet héritage. Mais des fois, cet héritage, il nous floute aussi. Des choses qu'on ne réalise plus, en fait. Je suis sûr que n'importe quel contemporain devait regarder et dire, c'est quoi ces deux amis-là? Ça fait aucun sens qu'ils sont ensemble. Il y en a un littéralement qui veut toujours marcher vite et l'autre qui veut toujours observer, regarder, c'est joli. Ça devait être même pour eux difficile de marcher ensemble. Mais on nous dit Pierre et Jean ensemble. Et humainement, les amis, c'est une contradiction. Mais j'aimerais qu'on réalise ce matin que ce qui, aux yeux des hommes, est une contradiction, aux yeux de Dieu, c'est une collaboration. Ce qui pour nous peut sembler une contradiction, aux yeux de Dieu, c'est une collaboration. Et ce que nous, on regarde en disant, ça ne peut pas marcher, Dieu dit, c'est exactement ce que j'avais prévu. On dit, non, ça ne marchera pas comme ça. Et Dieu, il lui dit, c'est parfait. C'est ce que je voulais. Vous savez, l'ennemi de nos âmes aime mettre notre focus sur les contradictions. Non, mais ça ne va pas, puis ça ne devrait pas être comme ci, puis ça. Puis Dieu, lui, il a envie de changer notre focus. Et dire là où vous voyez une contradiction, là où le diable veut vous faire voir une contradiction, voyez la collaboration. J'aimerais vous dire que ça, c'est ce que j'appelle le miracle avant le miracle. Cette collaboration, les amis, c'est un miracle avant le miracle. J'aimerais vous dire pourquoi. Je suis convaincu que s'il marchait seul, il n'y aurait pas eu cette guérison. Et je vais argumenter avec vous. Je sens qu'il y a beaucoup de théologiens ici qui veulent comprendre pourquoi je dis ça. À mon avis, si Jean était allé seul, il aurait sans doute vu et sans doute son cœur aurait été ému de compassion pour cette personne. Peut-être qu'il se serait même arrêté, discuté, qu'il aurait donné à cette personne. Mais j'aimerais penser, pendant un instant, je crois qu'il aurait été ému de compassion à distance. De ce qu'on voit du caractère de Jean, sans doute que ça aurait été juste, oh, quel malheureux, si seulement on pouvait faire quelque chose. Seigneur, intervient, sans jamais rien faire. Je pense que si Pierre avait été seul au temple, sans doute qu'il aurait été simplement seul au temple. Parce qu'on nous dit que ce gars-là était là depuis longtemps. Je pense que pour Pierre, c'était juste une règle, ça faisait partie des meubles. Il n'avait pas le temps, lui, il avait une mission, il fallait prier. Alors il allait simplement prier. Je crois sincèrement qu'on peut supposer ça. simplement des éléments du caractère qu'on a des deux personnes. Mais maintenant qu'ils marchent ensemble, voilà ce qui se passe. Les deux marchent ensemble et Jean a dû arrêter Pierre. Pierre, regarde, vois. Regarde cet infirme. On l'a croisé pas mal de fois. T'as pas quelque chose qui se passe dans ton cœur. C'est pas injuste ce qui lui arrive. Je pense que la réponse de Pierre première, ça a dû être « On va être en retard, dépêche-toi. Merci pour ton romantisme et tes émotions, mais on va être en retard. » Je pense que Jean a dû l'arrêter. « Pierre, attends un peu. Regarde-le. Si ton cœur n'est pas ému de compassion quand tu le vois. » Je pense qu'à ce moment-là, Pierre a dit « T'as raison, on va faire quelque chose. » Et là, Jean a dû lui dire « Attends. On va être ému de compassion. » Puis Pierre a dit « Non, si on est ému de compassion, on fait quelque chose. » Si ça nous prend aux tripes, on fait quelque chose. T'as raison, viens, on va faire quelque chose. Et c'est intéressant parce que le seul moment où c'est plus Pierre et Jean, c'est précisément au moment de l'intervention. C'est Pierre qui prend la parole. J'aimerais vous dire, possiblement Jean n'aurait pas eu le courage de prendre cette parole. Et je ne suis pas en train de faire un reproche ici à Jean. Juste en train de constater son caractère, sa manière d'être. Peut-être qu'il n'aurait pas eu le courage. Imaginez, c'était à la porte du temple, à l'heure de la prière, il y avait du monde. Jean, c'est pas la personne qui parle en public. On voit jamais Jean ouvrir sa bouche en public. Pierre, rappelez-vous, je viens de vous donner le contexte. Pierre, il vient de prêcher, de voir 3000 se convertir. Il n'a pas peur du public. Il dit, bien, on va aller. Et regardez l'audace des mots de Pierre. Écoute, on n'a pas d'argent. Regarde-nous. On n'a pas d'argent. Mais ce qu'on a, on te le donne. Et ça demandait beaucoup de courage, non seulement de dire ça, mais d'avoir les gestes qui vont avec. Parce qu'on nous dit qu'il a pris par la main, qu'il a relevé. Allez, marche! Et je crois que Jean n'aurait jamais eu cette audace et ce courage-là. Et nous fallait les deux ensemble. Mais est-ce que nous, on est capable de voir au-delà de la contradiction? Est-ce que nous, on est capable, dans notre quotidien, de voir au-delà de la contradiction? Il fallait la compassion de Jean, mais il fallait le courage de Pierre. Il fallait que Pierre et Jean marchent ensemble. Et je pose cette question parce qu'aujourd'hui, on est dans ce que beaucoup de sociologues appellent le post-christianisme, l'ère post-chrétienne, les temps après Jésus-Christ, y compris dans la culture occidentale. Et une des craintes que j'ai, quand je vois l'Église, avec un grand E, c'est une Église qui attend le miraculeux, mais qui n'est pas prête à vivre le miracle avant le miracle. Je vais m'expliquer, je pense que vous voyez où je veux venir, mais je crois que beaucoup de gens dans l'église veulent voir les infirmes marcher, mais ne sont pas prêts à vivre le miracle qui précède. Je vous ai dit, dans cette histoire, il y a un miracle avant le miracle, et la relation entre Pierre et Jean est, à mon avis, le miracle qui rend possible le deuxième miracle. Cette collaboration-là, quand tout le monde disait contradiction, on n'aurait jamais pensé qu'ils pouvaient marcher ensemble. Je crois qu'il y avait besoin de ça pour qu'on puisse par la suite voir ce boiteux se réveiller. Et ma crainte, c'est qu'on a tous envie, je crois, dans l'Église, de voir des infirmes marcher, mais on n'est pas prêt à vivre le miracle qui précède, à cause de l'ère post-chrétienne dans laquelle on est. Parce que l'ère post-chrétienne dans laquelle on est, les amis, un de ses marqueurs, c'est l'individualisme. C'est moi, et c'est si ça me fait du bien, et c'est si ça ne me dérange pas, et c'est si ça va dans le projet que j'avais prévu pour moi. Et en fait, on remplit beaucoup de notre moi, et du coup, on est rendu incapable de cette collaboration. On n'arrive plus à voir au-delà de la contradiction parce que on est trop nombriliste. Encore une fois, pas vous. Pas vous. Je parle de moi, je parle de la grande église. Je vous invite à réfléchir avec moi là-dessus. Et si ça nous concernait plus qu'on l'imagine? Combien de boiteux pourraient se lever si nous étions prêts à collaborer? Et là, les amis, je ne parle pas seulement de boiteux physiques. Combien de personnes pourraient rencontrer Dieu si on était un peu plus prêts à collaborer? Combien seraient d'accord de rencontrer Jésus parce qu'il nous voit et il voit à la façon qu'on a de s'aimer que sans doute il y a quelque chose de plus grand qui explique cela? Je vais le dire comme ça, pour voir le royaume de Dieu avancer, ça va prendre des gangsters et des romantiques marcher main dans la main. Mais dans l'ère dans laquelle on est, c'est très difficile. On crée nos cercles et nos groupes, puis on fonctionne avec les gens qui pensent comme nous, qui voient comme nous, qui sont sensibles aux mêmes choses que nous. Et après, on s'agite, on prie, on jeûne, on demande, Seigneur, que les boiteux marchent. Puis je crois que Dieu dit, il manque un premier miracle pour ça, celui de la collaboration. C'est pas quand vous allez fonctionner seulement avec des gens qui pensent comme vous, qui voient comme vous. Je pense qu'en fait, on n'est même plus capable, on est rendu incapable de voir beaucoup de boiteux autour de nous. Pour peu qu'on soit Pierre, on est simplement affairé à la tâche. On y va, il faut pas être en retard, il faut foncer, il faut ouvrir les portes, on parle trop vite, on s'excusera après, on continue. Et puis quand arrive un Jean, une personne un peu plus calme, un peu plus paisible, qui nous dit, est-ce qu'on pourrait considérer les choses? Tu comprends pas. Alors on propose à tous les gens de se retrouver ensemble, puis de passer des moments de contemplation. Puis tous les Pierres, eux, ils vont s'occuper ensemble d'avancer. Mais comme je vous l'ai dit, si on marche comme ça, on va passer à côté de beaucoup de boiteux sans réaliser qu'il y a des boiteux. Ou alors en réalisant, mais sans être capable d'intervenir. Je me demande si souvent on a l'impression d'avoir 99 problèmes quand en fait une seule chose réglerait beaucoup de problèmes. Cette chose, elle est connue, elle s'appelle l'amour. Encore une fois, au travers de ces histoires inspirantes, au travers de ces gars que j'ai rencontrés en Inde, je me suis rendu compte que je savais beaucoup de choses de l'amour, en théorie. Je savais beaucoup de choses de l'amour de Dieu, théologiquement parlant. Mais je me suis aussi rendu compte que j'avais un bout de chemin à faire si je voulais vivre cet amour. Parce que si vous m'aviez demandé avant le voyage, est-ce que tu mets Dieu en numéro un dans ta vie, je vous aurais dit, bien sûr. Regarde la folie, je vais en Inde. Mais après ce voyage, si vous me demandiez, est-ce que tu mets Dieu, je vous dirais, honnêtement, j'ai besoin d'aide au quotidien. Je suis pas sûr d'y arriver si bien que ça. Ça vient me chercher de véritablement vivre, de mettre Dieu au premier plan. Tant que ça ne me dérange pas trop, je crois que je suis d'accord de le mettre au premier plan. Tant que ça n'implique pas un quartier rempli de drogue, tant que ça n'implique pas un quartier où il n'y a personne qui croit en Dieu, mais en fonction des contextes, je suis pas sûr de réussir à mettre Dieu en premier dans ma vie. J'ai besoin de ces rappels. Est-ce qu'on est capable de voir au-delà de la contradiction? Il y aurait beaucoup de choses à vous dire encore sur ce passage. J'aimerais vous parler du boiteux si j'avais le temps. Ce sera peut-être une prochaine fois. Il faudra me dire, parle-nous du boiteux. Parce qu'il y a plein de choses à découvrir aussi sur ce boiteux et sur comment l'Église réagit par rapport au boiteux qu'on croise au quotidien. Mais j'ai envie de vous dire, c'est ma prière, après avoir étudié ce texte un peu plus en détail et depuis, après ces rencontres inspirantes que je vous ai racontées plus tôt, de dire, Seigneur, c'est pas moi qui suis au contrôle de ce que tu veux faire, c'est pas moi qui suis l'architecte de ton royaume, c'est toi qui es le chef de l'Église, c'est toi qui bâtis ton Église, tu nous fais cette promesse que tu vas bâtir l'Église et puis que rien pourra arrêter cette construction. Alors je vais te faire confiance, Seigneur. Je suis naïf, je comprends pas tout, je suis sans doute très souvent bête et maladroit. Mais si tu veux le faire avec nous, dans nous il y a moi, alors je vais me rendre disponible pour le faire. Utilise-moi là où tu m'appelles, Seigneur. Je vais être prêt à te suivre. Et une des choses qu'on a faites, c'est qu'on a dit on va accueillir chaque personne qui va venir. On va accueillir les gangsters. On va accueillir les romantiques. Puis on va essayer de collaborer. Parce que je crois que Dieu est désireux de voir des boiteux se relever, mais que ça va prendre des cœurs qui sont désireux de collaborer. Et que ça, c'est ma part à moi, en fait. C'est ma part beaucoup plus accessible. Je terminerai avec cette image. Très souvent, quand on s'attend à ce que Dieu intervienne, l'interventionnisme de Dieu, c'est une manière technique d'en parler. Les miracles qu'on attend, c'est souvent ce qu'on appelle aussi des percées. Et on veut voir un Dieu de percées. Puis je crois qu'on sert un Dieu de percées qui amène les percées quand lui sait que c'est le bon moment. Mais je crois qu'on a oublié aussi autre chose. C'est qu'on ne sert pas seulement un Dieu de percées, on sert un Dieu de processus aussi. Puis les percées, c'est rien entre nos mains. Si vous regardez l'histoire biblique et l'histoire de l'Église plus large, au-delà de la Bible, vous verrez que Dieu intervient quand il a décidé d'intervenir, quand il a décidé que c'est le bon moment et que ça n'a rien à voir avec notre capacité à nous ou pas. C'est que lui a décidé que c'était le temps, et puis que c'en était assez, et puis qu'il intervient. C'est comme ça qu'il fonctionne, et c'est merveilleux. Mais nous, il nous invite à fonctionner dans un processus. Garde ton cœur. Travaille à ta relation avec les autres. Ça, c'est notre job à nous. Et je crois qu'il faut qu'on redécouvre ça. C'est aussi un de ces équilibres à retrouver. C'est-à-dire, moi, je veux juste garder mon cœur, faire ce que tu me demandes de faire, collaborer quand ça semble impossible de collaborer, accueillir les gens qui vont, et puis m'attendre à toi. Que tu puisses amener les percées quand tu penses que c'est le bon moment d'amener les percées. Je vous encourage avec ça à vous poser quelques questions. Et j'aimerais terminer avec ces quelques questions. Avec qui est-ce qu'aujourd'hui vous collaborez? C'est une question pour chacun d'entre nous. Avec qui est-ce qu'aujourd'hui je collabore? Si je m'estime un peu plus Pierre, il y a des pierres, je veux vous bénir. Merci d'être des pierres, merci pour votre courage, merci pour votre audace, merci de foncer, merci d'avoir pas peur du quand dira-t-on et puis d'y aller quand même. Mais si vous êtes Pierre, qui est Jean pour vous? Quelle est cette personne qui vous ralentit dans la marche, mais que vous l'aimez tellement que vous êtes d'accord d'être ralenti dans votre marche? Quelle est cette personne qui vous dit, est-ce que tu vois pas ça? Puis plutôt de lui dire, tais-toi ou bien va voir ça avec tes amis. Ok, je veux voir ça si toi tu le vois. Et si vous êtes des gens, si vous êtes des romantiques, si vous êtes des personnes qui voyez, c'est des personnes qui sont beaucoup plus en phase avec vos émotions, je pense que Pierre, ça lui prenait beaucoup de temps d'expliquer comment, de répondre à comment il va. Jean, il savait répondre à comment il va. Si vous êtes ce genre de personne-là, qui est votre Pierre? Qui est la personne qui va vous dire, ça ne suffit pas d'être ému de compassion, on va agir sur cette compassion. On va se mettre en route par rapport à ça. C'est génial que tu aies vu ça. C'est ma première question. Avec qui est-ce que vous collaborez? Ensuite, de façon plus large, c'est une question pour vous en tant que communauté. Est-ce qu'on est prêt à vivre la collaboration plutôt que de voir la contradiction? Est-ce qu'on est prêt à vivre la collaboration plutôt que de voir la contradiction? Je vous disais un peu plus tôt, l'ennemi met le focus sur la contradiction. Est-ce que l'ennemi appelle contradiction, Dieu appelle collaboration? Est-ce que je suis prêt à vivre la collaboration plutôt que de m'arrêter sur la contradiction? Je vous raconte une petite anecdote me concernant. Pour beaucoup, je suis une énigme. Bon, ici, ça va parce que je suis fils de Mwanza, mais ça aide. Et dans beaucoup d'endroits où je vais, je suis tout à fait une énigme. Je n'ai pas le look typique du pasteur. Souvent, j'ai des casquettes, j'ai des baskets. J'aime travailler depuis des cafés, ce qui n'est pas très pastoral comme comportement. Je connais beaucoup de gens, parce que j'ai une vie où je ne connaissais pas Jésus, où je ne connaissais pas personnellement Jésus. J'avais entendu parler de Jésus, mais je ne connaissais pas Jésus. Puis j'ai beaucoup d'amis qui sont orduriers. Alors des fois, quand je suis avec des amis de l'église, puis qu'il y a quelqu'un qui crée une insulte pour me saluer, vous savez, c'est toujours... ça suscite quelques interrogations. Et c'est OK. Et puis avant de faire un parcours en théologie, en fait, j'ai un parcours en philosophie. Puis pour beaucoup, c'était une contradiction. La philosophie allait me faire perdre la foi. Donc je suis un peu une énigme quand je fonctionne. Et puis, on a commencé une église. Et puis, quand on a commencé l'église, beaucoup disaient « Ah, vous faites une église pour les jeunes. » Je me disais « C'est bizarre, je ne me souviens pas avoir dit ça à aucun moment. » D'ailleurs, c'est quoi comme principe une église pour les jeunes? Est-ce que les jeunes vont rester jeunes? C'est-à-dire que je fais une église pour que les gens partent? Venez, on fait une église pour que dans 5 ans, vous deviez tous partir. Je dis non, écoutez, je suis désolé. À chaque fois qu'on m'interpellait là-dessus, je disais, écoutez, je savais pas qu'il y avait des églises pour les jeunes. Je suis pas sûr que ce soit un projet biblique. On veut juste faire une église pour ceux qui aiment Jésus, en fait. Il n'y a pas un âge pour ça. Puis si tu fais partie des êtres vivants, puis que tu aimes Jésus, ou que tu t'interroges sur Jésus, tu es le bienvenu dans notre église. Puis on a commencé à marcher, puis aujourd'hui, je suis vraiment... Cette contradiction, je marche avec des gens qui sont bien plus âgés que moi, puis qui m'appellent leur pasteur, et puis c'est trans. Des fois, c'est difficile d'assumer ça, parce que littéralement, ils pourraient être mes parents. Et puis, je marche avec des gens qui sont de tous les milieux. On a des chômeurs, puis on a des docteurs. Puis je trouve que c'est ça la beauté de l'Église. Je trouve que c'est ça la beauté du royaume. C'est de dire aux gens, laissons un petit peu toutes ces choses qui pourraient nous séparer, laissons toutes ces choses qui pourraient sonner comme des contradictions, puis décidons de voir la collaboration. La dernière question, Est-ce qu'on est prêt à s'engager et chercher les miracles avant le miracle? J'aimerais simplement prier pour nous tous. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ta parole parce qu'elle est vivante aujourd'hui encore. Je te remercie pour ta parole parce qu'elle vient nous chercher et nous challenger. Merci Seigneur parce que ce n'est pas simplement des récits historiques, ce n'est pas simplement un cadre pour vivre l'Église, mais c'est véritablement toi qui veux par ton amour nous transmettre des choses aujourd'hui encore. Je te prie Seigneur que ce qui m'a parlé dans ce texte puisse parler à beaucoup ce matin. Je te prie que ça puisse nous emmener Seigneur à nous engager dans ce processus et à s'attendre à ce que tu puisses intervenir au milieu de ce processus. Seigneur, je te prie qu'on soit des personnes et des disciples désireux de vivre la collaboration plutôt que de s'arrêter sur la contradiction. Seigneur, je te prie qu'on soit capable ensemble de s'aimer au-delà de la logique et qu'on puisse s'engager dans le miracle qui précède les miracles. Je suis convaincu que tu as beaucoup de miracles encore en réserve pour chacun d'entre nous. Puis je te prie qu'on soit prêt à vivre les miracles qui sont nécessaires pour que ces miracles arrivent. Je vais te donner toute la gloire, Père. Continue à faire ton œuvre dans nos cœurs, où qu'on en soit dans notre chemin à ta suite. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.